Salut à toutes et à tous. Au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons Sky Blazer, Fishing Derby, Angler Dangler, Atari Kart et un dossier sur la Vectrex. Bienvenue sur Rétrovision. Raglan, le seigneur des ténèbres, est de retour accompagné de son fidèle serviteur Ashura, seigneur de la guerre. Celui-ci va enlever la bienveillante sorcière Ariana devant les yeux de Sky, notre héros qui ne pourra malheureusement rien pour empêcher ça. Mais Sky est un homme plein de ressources, car il est ni plus ni moins que le descendant de Skylord, un sorcier qui vainquit autrefois Ashura. Aidé par les conseils d'un vieux sage, Sky devra parcourir de nombreuses contrées afin d'acquérir les pouvoirs nécessaires pour convaincre Ashura et Raglan et ainsi libérer Ariana. Sky Blazer est un jeu de plateforme action développé par le studio Yukiote pour le compte de Sony ImageSoft. Ce jeu, fortement inspiré par la culture hindouiste, les personnages de Sky et Ariana étant nommés respectivement Garuda et Vishnu dans la version japonaise, se base sur un gameplay assez classique. Sky peut sauter, donner des coups de poing et de pied et utiliser des attaques magiques. Celui-ci peut également s'accrocher aux parois verticales à la manière des protagonistes de la saga Contra. Notre héros devra donc parcourir 17 niveaux qu'il pourra refaire à loisir en se déplaçant sur une carte. Si certains niveaux ne sont qu'un passage d'un point de la carte à un autre, d'autres se termineront par l'inévitable confrontation contre un boss, dont l'issue victorieuse vous permettra d'acquérir de nouveaux pouvoirs, parfois nécessaires pour poursuivre l'aventure, mais dont l'utilisation, matérialisée par une barre d'énergie, vous obligera à faire preuve de modération. Heureusement, de nombreux bonus seront là pour refaire le plein en cas de besoin. Les niveaux aux décors variés vous mettront souvent face aux éléments, l'eau, le feu, l'air ou la terre. Histoire de casser la routine, certains passages au scrolling automatique proposeront un gameplay typé shoot 'em up, parfois même présenté avec un effet de mode 7 très réussi. Disposant d'une réalisation remarquable avec des graphismes variés et colorés, d'une maniabilité réactive et d'une agréable bande son aux sonorités orientales, Sky Blazer fait partie de ces titres presque indispensables de la Super Nintendo. La difficulté bien dosée du soft permettra une progression en douceur, mais nécessitant parfois de nombreux essais pour passer quelques niveaux assez retors. Un système de mots de passe est également intégré pour ne pas devoir tout refaire à chaque fois. Bien que très bien accueilli par la presse spécialisée de l'époque, Sky Blazer n'eut qu'un succès d'estime. Il serait pourtant dommage de laisser tomber dans l'oubli un titre qui ne manque pourtant pas de qualité. Nous y voilà, nous sommes en 1980 et voici le tout premier jeu de pêche de l'histoire et nous le devons à Activision et plus précisément à David Crane, un des grands noms du jeu vidéo. Mais revenons au jeu à proprement parler. Deux pêcheurs vont s'affronter dans un concours de pêche, bien évidemment. Le jeu se déroule comme suit, vous devez récupérer un maximum de poissons et les points que les poissons représenteront sont en fonction de leur profondeur. Plus ils sont en profondeur et plus ils vous ramènent de points. Mais gare au requin qui peut manger vos prises. Le jeu était assez simple et très plaisant à jouer à l'époque, et je suis bien placé pour le dire car je le possédais. Il est aussi jouable à deux ou contre l'ordinateur. Maintenant que le style est créé, voici le premier jeu de pêche sorti en arcade par Data East sur le Deco Cassette System en 1982. Il s'agit d'un hardware d'arcade dont les données sont situées sur des bandes magnétiques ressemblant à des cassettes audio et livrées avec un dongle de sécurité, mais nous y reviendrons très certainement. Dans ce jeu qui pose les bases de ce que l'on retrouvera par la suite dans la quasi-totalité des jeux de pêche, c'est-à-dire la distance du lancer et la tension du fil quand un poisson a mordu. Le gameplay est assez simple, vous devez pêcher tout un tas de poissons et les plus gros sont indiqués sur le radar en bas. Celui-ci vous indiquera par un petit carré très furtif là où va atterrir votre leurre. Mais pas de panique, même si vous attrapez un tout petit poisson, vous pourrez toujours espérer que votre prise grossisse si un autre poisson de taille supérieure le mange et de ce fait soit au bout de votre ligne. Sinon pour le maniement c'est assez simple, en effet pour mouliner il suffit juste d'appuyer sur un bouton et la bonne direction, car si votre poisson touche la terre, il s'en ira et vous devrez recommencer. Ce titre, bien que très archaïque, est vraiment très agréable à jouer. Publié à la fin de l'année 95 sur une Jaguar à bout de souffle, Atari Karts est un jeu qui, clairement, comptait rouler sur les plates-bandes de Mario Kart. Il faut bien avouer que depuis la sortie du titre de Nintendo, les ersatz de ce dernier se sont multipliés. Atari a donc suivi la mouvance. Ce jeu de course se présente donc de la manière la plus classique qui soit. Un choix de 7 protagonistes, plus laids et insipides les uns que les autres, auxquels s'ajouteront 4 autres personnages que vous devrez débloquer au préalable. A noter que l'un des persos, Bentley Beer, était le héros du jeu Crystal Castle, un jeu d'arcade édité par Atari en 1983. Bien évidemment, chaque carte possède ses propres caractéristiques en vitesse de pointe, accélération et tenue de route. Une fois au volant de votre carte, vous devrez parcourir les 8 circuits et 3 coupes afin d'accéder à la course finale et ainsi défier le boss qui rejoindra la liste des persos jouables si vous en sortez vainqueur. Chaque boss étant différent selon le niveau de difficulté sélectionné, difficulté matérialisée non seulement par la vitesse de vos adversaires, mais également par la multiplication des obstacles et autres pièges. Le nom de certaines coupes est un clin d'œil à l'histoire d'Atari. La Borrega Cup, par exemple, est une allusion à une ancienne adresse des locaux d'Atari, la Borrega Avenue à Sunnyvale. La Tempest Cup fait référence au jeu Tempest et la Miracle Cup au studio Miracle Design. Tout comme dans Mario Kart, les circuits sont parsemés de bonus. Mais contrairement à son modèle, vous n'aurez aucun item pour attaquer vos adversaires. Les bonus ne servant qu'à améliorer votre conduite, vous donner un coup de boost ou au contraire vous ralentir pour inverser les commandes. Vous vous en doutez donc, le fun et la convivialité procurés par le titre de Nintendo sont ici abonnés absents. On se contente la plupart du temps de finir au plus vite la course, en évitant soigneusement de toucher ses adversaires au risque de voler dans le décor et perdre de précieuses secondes. On a plus l'impression de piloter une auto tamponneuse qu'un kart. Mais la frustration monte crescendo face au bonus placé au plus mauvais endroit du circuit. Il n'est pas rare d'avoir des accélérateurs placés dans la trajectoire d'un obstacle ou à l'entrée d'un virage. Sans oublier les obstacles, larges de quelques pixels qui réussiront à vous bloquer, permettant ainsi à vos adversaires de vous mettre un tour dans la vue incognito. Si Atari Karts est loin d'égaler un Mario Kart sur le terrain de la jouabilité, ce n'est guère mieux au niveau technique. Malgré des graphismes colorés, il faut bien admettre qu'on est bien loin de ce que peut proposer la Jaguar. C'est à peine meilleur que ce que nous offraient les consoles 16 bits. Quant aux musiques, aussi sympathiques soient-elles, elles manquent clairement de punch. Elles auront au moins le mérite de réveiller la nostalgie des utilisateurs d'Atari ST, celle-ci ayant été composée avec le logiciel Pro Tracker, programme de composition musicale bien connu des Ataristes. Vous constaterez également que le bruit des moteurs ressemble plus à celui d'une tondeuse à gazon que d'un kart. Quant à la conduite, elle se fera de la manière la plus tranquille qui soit. Vous pouvez oublier les drifts, car ici, les dérapages finissent très vite en tête à queue, ce qui est relativement frustrant. Mais qu'on se rassure, tout n'est pas négatif. La maniabilité est plus que correcte et permet d'apprécier au minimum les divers tracés qui ont ici l'avantage d'être en relief. Là où ceux de Mario Kart sont désespérément plats, le tout dans des décors variés, bien qu'en nombre assez limité. Atari Kart, ce n'est donc pas un titre inoubliable, tout juste sympathique à jouer un après-midi, le temps d'en faire le tour. Et si il se négocie aussi cher de nos jours, gardez en tête que c'est uniquement à cause de sa rareté.
Vectrex, le nouveau système vidéo indépendant, c'est un jeu génial! Avec des bruits! Pas besoin de téléviseur. Vectrex, une console de jeu haute définition. Pour commencer, il y a un jeu incorporé et beaucoup d'autres pour les passionnés. Espace. Aventure. Sport. Vectrex, indépendant vidéo système pour jouer où vous voulez, quand vous voulez. Vectrex, moi je décolle de la télévision.
En 1980, Mike Purvis et John Ross réfléchissent à la meilleure manière de réutiliser un surplus de moniteurs CRT achetés par la société Western Technology Smith Engineering. Leur vint alors une idée de créer un système de jeu tout en un basé sur des graphismes vectoriels. Jay Smith, directeur de Western Tech et ancien employé de Mattel, leur donna carte blanche pour élaborer leur projet. Durant son développement, la console eut plusieurs noms de code, Mini Arcade, HP 3000 ou encore Vector X, et intéressa plusieurs entreprises pour sa commercialisation. Si la compagnie Kenner, spécialisée dans les jouets, était prête à vendre la console dans un format d'écran 5 pouces en noir et blanc sous le nom Mini Arcade, c'est finalement la société GCE, General Consumers Electronics, qui commercialisa la machine dans un format 9 pouces sous le nom de Vectrex. Le choix des graphismes vectoriels était poussé par le fait que ceux-ci donnaient un rendu plus impressionnant que les graphismes bitmap de l'époque et simplifiaient grandement l'adaptation des hits d'arcade du moment tels qu'Astéroïd, Tempest, Space War ou Battlezone, des titres très populaires et utilisant le même type de graphisme. Pour pallier à la monotonie des graphismes monochromes, le jeu était accompagné d'un overlay, un film rigide et transparent aux couleurs du jeu à placer devant l'écran, permettant ainsi d'ajouter un décor, certes statique, mais toujours plus agréable qu'un fond noir. La console fut commercialisée en octobre 1982 à $199. Celle-ci avait des arguments de vente assez percutants, techniquement plus évolués que la concurrence, système autonome transportable, tout en un, prêt à jouer et ne nécessitant pas d'accaparer le téléviseur familial. De plus, celui-ci intégrait le jeu Mindstorm et permettait de brancher une seconde manette pour pouvoir jouer à deux. En mars 1983, la société de jouets Milton Bradley, plus connue sous les initiales MB, désirant se lancer dans le business du jeu vidéo, racheta CGE. Profitant ainsi d'un réseau de distribution internationale solide, la Vectrex fut commercialisée dès l'été 1983 en Europe et au Japon. D'abord vendue sous la marque GCE, celle-ci passera bien vite sous l'étendard MB, le crash de 1983 ayant poussé Milton Bradley à fermer CGE. Au Japon, celle-ci sera vendue sous la marque Bandai. Suite aux effets de la crise du jeu vidéo, le prix de vente de la Vectrex baissera rapidement jusqu'à l'arrêt de la production européenne en mars 1984. Aux États-Unis, la Vectrex ne restera pas beaucoup plus longtemps, l'arrêt de sa production étant effectif dès le mois de décembre 1984. MB ayant été racheté entre-temps par Hasbro, qui poussa l'abandon de la console. Durant sa courte vie, la Vectrex aura profité d'un catalogue de 28 jeux, des conversions de jeux d'arcade, mais également d'autres titres de genres assez variés, courses, aventures, plateformes, flippers et même éducatifs. La machine aura également droit à ses accessoires avec le fameux crayon optique, mais surtout les lunettes 3D. En 88, Smith Engineering évoquera l'idée de relancer la Vectrex sous forme de console portable. Mais pour MB, vendre une console portable à plus de $100 était impensable. De plus, avec l'arrivée imminente de la Game Boy l'année suivante, ce projet ne pouvait que se retrouver à la corbeille.